Vocation Entrepreneur, c'est votre bulle introspective en psychologie des femmes entrepreneurs. Pour cet épisode 9, j'ai invité Afida Aglave, business et stratégique coach, créatrice du membership Femmes Engagées Le Club, un membership qui forme des futurs coachs engagés. Afida nous livre sa version du business engagé et je peux vous dire que j'ai remis en question beaucoup d'a priori après cet échange.
Nous les femmes, on a énormément de rôles différents et que parfois, justement, on se réduit à certains de nos rôles. Par exemple, celui de maman. C'est souvent la maman qui arrête sa carrière professionnelle pour élever ses enfants qui se met en congé parental. Le rôle d'épouse. Parfois, quand on se marie, eh ben, on s'autorise moins de choses parce qu'on a envie de prendre soin de notre couple, de prendre soin de notre époux. Et quand on devient entrepreneur, eh bien, il y a des choses qu'on ne s'autorise pas parce que justement, on doit aussi combler les autres rôles.
Dans cette interview, vous allez découvrir le voyage et l'épreuve qui ont été déterminants dans la vie professionnelle de Afida. Clairement, il y a eu un avant et un après. L'engagement est quelque chose de très exigeant qui vous pousse dans vos retranchements. Vous allez découvrir comment Afida a intégré son business à sa mission de vie, celle d'impacter positivement la vie des femmes. Elle nous explique que tous les rôles qu'elle occupe quotidiennement sont aussi importants les uns que les autres. Elle nous montre comment concilier les différentes casquettes pour être épanouie à tous les niveaux. À travers son parcours, vous allez découvrir que le chemin de l'entrepreneuriat peut transformer profondément une personne. Comme je le dis souvent, la personne que vous êtes en action est loin de celle que vous imaginez. Vous allez également comprendre qu'en matière de productivité, la quantité de travail ne vous assurera pas une quantité de résultats. À ce jour, nous sommes encore en hiver, alors prenez un bon thé chaud et un plaid. Et c'est parti pour 45 minutes d'histoire passionnante. Afida, bonjour.
Bonjour, Ayette.
Bienvenue sur le podcast Vocation Entrepreneur.
Merci.
Alors Afida, tu es entrepreneur depuis 2008 et tu es également épouse d'entrepreneur puisque ton mari est aussi entrepreneur. Et ton parcours est intéressant parce que justement, baigner dans cet univers d'entrepreneuriat, eh ben, ça permet de découvrir les différentes facettes de ce métier.
Exactement, oui.
Tu as eu des business, donc ton mari et toi, vous aviez eu et des business physiques et des business en ligne. Et toi, tu avais une boutique de prêt-à-porter en ligne. Puis, il y a quelques années, pendant ton congé parental, tu étais à la recherche de plus de sens dans ta vie. Et tu t'es engagée dans une association qui s'appelle LVD, qui vient en aide aux plus démunis dans le monde. Et ça a été le chemin par lequel tu es arrivée sur le web et notamment le marketing, puisque tu as dû gérer le marketing de cette association en autodidacte. Et grâce à ton travail, l'association a pu avoir une influence grandissante. Lorsque tu as constaté l'impact que pouvait avoir ton travail de communication sur la vie des plus démunis et que ce travail s'avérait particulièrement plaisant pour toi, là, tu as décidé d'en faire ton métier. Tu t'es donc formée au web design, à l'infographie, à la photographie. Et là, tu deviens freelance en ouvrant ta première agence de communication digitale. Aujourd'hui, tu es business et stratégique coach et tu aides les femmes à lancer leur business de coach avec un point particulier, ce sont des coachs engagés. Et cette dimension d'engagement, c'est la pierre angulaire de ton business, de tous tes messages marketing. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai invitée sur Vocation Entrepreneur, parce qu'a priori, on a l'impression que l'engagement et le business, eh ben, c'est pas compatible. Et je t'avoue que l'engagement, c'est quelque chose qui me parle, mais j'ai encore du mal à trouver psychologiquement ce point d'équilibre entre le fait de générer du chiffre d'affaires, de développer une activité pérenne et d'avoir un impact positif sur les gens. On reparlera plus en détail de ce point en troisième partie, mais là, tout de suite, j'aimerais revenir sur un moment de ta vie qui a créé cet avant-après professionnel et qui a été déterminant. C'est ce fameux voyage humanitaire au Sénégal.
Oui, effectivement.
J'aimerais que tu nous en parles un peu et que tu nous dises qu'est-ce que ce voyage t'a apporté concrètement dans ta vie d'entrepreneur.
Alors, merci déjà, merci pour cette présentation qui retrace bien une partie de mon parcours. Pour ce qui est de ce voyage, je dirais que ce voyage, en fait, est venu valider la vision que j'avais justement de l'entraide et de la solidarité, parce qu'avant ce voyage, j'étais déjà engagée dans l'association depuis 3 ou 4 ans. Mmh. Et lorsque l'équipe a proposé qu'une femme aille sur place pour collecter les informations sur les besoins des femmes, sur quelles étaient leurs aspirations, comment elles pouvaient devenir autonomes, etc. Eh bien, je me suis portée volontaire et j'y suis allée avec mon mari et avec 2 autres bénévoles. Ce qui s'est passé sur place, en fait, a été à des années-lumière de ce que j'imaginais.
J'imagine bien qu'entre ce qu'on imagine et la réalité, il y a un gouffre. Mm-hmm. Parce que quand on vient, on fait un don, par exemple, et on dit, bon, bah, ça va aider les démunis. Ou quand on travaille dans une association et on se dit, bon, bah, ça va aider les démunis, on se rend pas vraiment compte de ce que concrètement ça veut dire.
Exactement. C'est exactement ça. D'autant plus que moi, le rôle que j'ai dans l'association LVD, c'est que je suis responsable du pôle communication. Ce qui fait que j'ai accès à tout le contenu qui transite entre les personnes qui sont sur le terrain et le public. C'est moi qui organise la communication pour mettre en valeur les actions de l'association. Et il se trouve que sur les voyages précédents, puisque on fait en sorte d'y aller une fois par an, eh bien, j'avais accès en temps réel aux anecdotes des bénévoles sur place, aux vidéos, aux photos, etc. Donc, j'avais un peu l'impression de vivre ces voyages humanitaires par procuration. Donc, oui. Quand j'y suis allée, je me suis dit, en réalité, je sais déjà un peu ce que c'est, mais pas du tout. Je suis arrivée sur place, les journées étaient hyper chargées, on se levait à 6h, on se couchait à 23h, il fallait gérer la diffusion des photos avec un réseau forcément internet qui est très très bas. Et ce qui fait que j'étais toujours dans l'action tout au long de la journée. Et en réalité, sur place, je me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait parce que j'étais tout le temps en mouvement, tout le temps en action. Je posais des questions aux femmes, on allait contrôler les puits qui sont construits sur place, on jouait avec les enfants, on faisait énormément de choses. Sauf que le dernier jour, comme on avait tous terminé nos missions, eh bien, c'était la journée off. Et il s'est trouvé que cette journée off, c'était un samedi. Et en fait, toute la semaine, j'avais quasiment pas vu d'enfants, puisqu'ils sont souvent scolarisés dans d'autres villages ou même en internat. Oui. Et ce qui fait que ce samedi-là, où nous, on est en repos, eh ben, le village a été envahi d'enfants.
D'accord.
Il a été envahi d'enfants. Et là, c'est là où, comme ça y est, j'avais relâché la pression, eh bien, je me suis rendu compte de ce que déjà je venais d'accomplir. C'est que je suis maman de 2 garçons. Et ils étaient à plus de 4000 kilomètres de moi, et moi j'ai été entourée de dizaines d'enfants d'autres personnes, et ça m'avait fait un petit électrochoc, et j'ai fait le parallèle entre la facilité d'accès qu'on a notamment à l'eau potable. On ouvre simplement un robinet, on tire même la chasse d'eau aux toilettes, et ça pour eux c'est hallucinant qu'on fasse ça. On a accès aux soins, on a accès à l'éducation assez facilement. Et puis, je regardais ces petits-enfants qui avaient 4-5 ans et qui étaient pendant toute la semaine coupés de leurs parents pour pouvoir avoir accès à l'éducation. Donc, déjà, ça m'a fait cogiter. Mais c'est surtout au retour. Donc, déjà, sur place, ça m'a fait cogiter. Dans le taxi, pour repartir à l'hôtel, j'ai pleuré non-stop et les autres bénévoles se taisaient. Ça a été un silence et j'ai tout vidé ce jour-là parce que c'était…
Oui, tu prenais conscience de la réalité du monde, en fait, qu'à côté de ton monde en France, il pouvait y avoir un monde beaucoup plus, je dirais… beaucoup moins confortable, beaucoup plus cruel, quoi, au final, parce qu'on vit quand même dans une bulle.
Exactement. On vit effectivement dans une bulle et on a du mal à imaginer, même si on voit des reportages, on voit des choses à la télé ou sur les réseaux et autres, tant qu'on l'a pas vécu soi-même, c'est un peu compliqué de pouvoir mettre des mots et des émotions là-dessus. Mais paradoxalement, effectivement, ils sont dans une situation qu'on pourrait nous juger d'inconfortable ou de difficile, mais le bonheur que j'ai ressenti là-bas sur leur visage, dans la façon de raconter leur histoire, dans la façon de raconter leur vie, eh bien, je me suis dit, en fait, c'est nous qui sommes dans le faux. Mais vraiment, c'est ce que je me suis dit en revenant. Parce que moi, j'étais partie avec un peu la petite prétention de la personne qui vient aider parce que les gens ont besoin de nous. Tu vois un peu ça. Dès que je suis arrivée sur place, je me suis tout de suite rabaissée parce que les femmes étaient d'une telle grandeur, d'une telle humilité, d'une telle force. Elles se lèvent à 3-4 heures du matin, c'est les dernières à se coucher, elles s'occupent quasiment de tout, du terrain, de l'eau, du potager, elles s'occupent de tout. Elles vont au marché, elles vendent, elles ramènent les fonds. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles étaient déjà hyper bien organisées. Donc, ce que pourquoi j'étais venue, ben, en réalité, n'avait pas vraiment de sens une fois sur place, c'est qu'elles sont déjà très bien organisées et elles arrivent à s'occuper de leur communauté, de leur village, de manière extraordinaire. Elles ont créé tout un écosystème où chacun a sa place en tant qu'être humain.
Ce modèle, du coup, que tu imaginais qui n'était pas du tout la réalité, dans ton parcours d'entrepreneur, parce que tu étais déjà entrepreneur avant et puis tu l'étais après, quels sont les éléments vraiment sur lesquels là ça a switché, là tu t'es dit là c'est plus possible, je peux plus faire comme ça?
Alors, avant d'aller à ce voyage humanitaire, j'étais prestataire de service, donc exécutante, je faisais des logos, des sites, etc. Mais j'avais déjà cette envie de faire plus avec mes clients, d'aller plus loin avec eux que simplement l'aspect technique et marketing de leur activité. J'avais déjà cette petite graine-là qui commençait à germer dans mon esprit, mais en fait, je savais pas comment le faire, mais surtout, j'avais pas encore mis le doigt sur pourquoi je voulais faire ça. Pourquoi je voulais switcher mon business. Et ce voyage-là, en fait, il m'a fait prendre conscience que nous, les femmes, on a énormément de rôles différents et que parfois, justement, on se réduit à certains de nos rôles. Par exemple, celui de maman. C'est souvent la maman qui arrête sa carrière professionnelle pour élever ses enfants, qui se met en congé parental. Le rôle d'épouse. Parfois, quand on se marie, eh ben, on s'autorise moins de choses parce qu'on a envie de prendre soin de notre couple, de prendre soin de notre époux. Et quand on devient entrepreneur, eh bien, il y a des choses qu'on ne s'autorise pas parce que justement, on doit aussi combler les autres rôles. Et ce voyage-là, il m'a fait prendre conscience qu'en réalité, on avait besoin de peu pour être épanoui dans chacun de nos rôles de vie.
Là, tu vois, tu mets le doigt sur quelque chose qui m'intéresse. Tu as déjà communiqué dessus. C'est ce que tu appelles le minimalisme dans l'entrepreneuriat.
Oui.
Comment tu vois ça, en fait? Parce que moi, c'est quelque chose qui me parle.
Alors, cette notion de faire beaucoup avec peu, je l'ai d'abord intégrée dans mon quotidien. J'ai d'abord intégré dans ma vie quotidienne, dans le fait de... D'ailleurs, ça a été le déclic, ce voyage-là, notamment pour notre consommation d'eau. J'en ai parlé dans l'un de mes posts sur Instagram. C'est que quand on est revenu de ce voyage, on s'est rendu compte qu'on gâchait énormément d'eau. Et on a mis en place des petites routines avec nos enfants. Et en moins de 2 ans, on a divisé par 3,5 notre consommation d'eau. La consommation d'eau, d'un foyer où il y a 2 adultes et 2 enfants, c'est en moyenne 150 mètres cubes par an. Et nous, on est aujourd'hui à 44 mètres cubes par an.
D'accord.
Donc, j'avais déjà commencé à intégrer toutes ces notions-là dans mon quotidien. Et puis, petit à petit, quand j'ai vu que ça marchait, et aussi quand j'ai constaté que mon business commençait à devenir lourd, parce que je faisais énormément de choses. J'essayais toutes les stratégies qui semblaient fonctionner. Je mettais énormément d'énergie, de temps et d'argent dans des choses qui, quelque part, ne m'apportaient pas forcément de résultats. Et quand je parle de résultats, c'est pas forcément des résultats en termes de chiffre d'affaires, mais c'est aussi des résultats dans mon équilibre pro-perso, dans mon épanouissement, dans mon mieux-être. Et pour moi, c'est un tout d'être entrepreneur. Donc, si il y a des actions que j'intègre dans mon quotidien d'entrepreneuse qui m'apportent plus de lourdeur, plus de difficultés que si je retirais cette action-là, eh bien, je vais être amenée à réfléchir et à me dire, je vais laisser le temps à cette action de voir si elle a un effet ou pas sur moi ou sur mon entreprise. Mmh. Et très vite, si je constate qu'effectivement ça a aucun effet, eh bien, je vais switcher sur autre chose. Alors qu'avant, ce que je faisais, c'était que je me disais, Tout le monde dit qu'il faut une chaîne YouTube, je vais en créer une. Tout le monde dit qu'il faut être ça et ça comme plateforme, eh bien, je vais y être. Tout le monde dit qu'il faut faire ça, eh bien, je vais le faire. Et
comme la consommation, finalement, en fait, comme la consommation, quoi, qu'on consomme au quotidien, des objets qui n'ont pas forcément d'apport, en fait, au niveau épanouissement personnel. Eh bien, dans l'entrepreneuriat, on fait pareil. On consomme des formations, on consomme plein de techniques. Et finalement, effectivement, peut-être que ça apporte un résultat, mais c'est un résultat qui est à l'extérieur de nous, qui nous concerne pas, qui nous apporte rien. Donc pour toi, le minimalisme, c'est un état d'esprit général.
Exactement, c'est un état d'esprit général que j'ai, que j'intègre. Alors je suis pas encore au top dans ce que je suis en train de faire, et je pense que je ne le serai jamais, parce qu'on est toujours dans un souci de performance et d'excellence. Mais en tout cas, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir s'épanouir dans son activité, s'épanouir personnellement, s'épanouir en tant que chef d'entreprise, tout en générant un revenu pérenne, en ayant une liberté financière. Et je sais que c'est pas quelque chose qui est inné quand on se lance dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a l'impression que plus on est occupé et plus on est un vrai entrepreneur.
Ah, ça, c'est pas uniquement dans l'entrepreneuriat, ça, tu vois, ça peut être aussi dans son rôle de parent, ça peut être aussi dans son rôle de salarié, hein. Tu sais, des fois, on passe 8 heures en tant que salarié dans un bureau, est-ce qu'on bosse vraiment 8 heures, tu vois, c'est-à-dire de manière effective? Je ne pense pas. Donc, effectivement, cette notion d'efficacité qui est proportionnelle au temps passé à faire une chose, ça aussi je l'ai remise en question moi-même. Quand j'ai lancé ce podcast, et je me suis rendu compte que je pouvais être très efficace sur 3 heures, alors qu'avant je m'obligeais à rester des journées, et je culpabilisais de ne pas rester des journées entières devant le bureau, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel faut vraiment travailler. L'efficacité, c'est pas une quantité, c'est vraiment quelque chose de qualitatif, en fait.
Exactement.
Alors, Afida, si je te dis, donc je vais te citer une phrase, tout engagement génère des compromis, et il est évidemment beaucoup plus facile de rester soi-même en ne faisant rien. Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Si je transpose ça à mon histoire, à mon expérience, je dirais que la force de l'engagement, et quand je parle d'engagement, c'est pas forcément l'engagement humanitaire, hein, c'est l'engagement que l'on prend soi-même envers la vie de manière générale. J'ai constaté, moi, que la force de l'engagement, forcément, elle nous fait sortir de notre zone de confort, parce que plus on va vouloir s'engager dans quelque chose, dans une relation, dans un business, dans une cause humanitaire, plus on va être amené à faire des choses qui sortent de nos habitudes, qui sortent de notre quotidien. Et pour moi, ça a été tellement formateur. J'ai tellement appris sur moi et sur les autres en étant engagée dans ce que je faisais, que pour rien au monde, je retournerai en arrière.
Donc, tu es d'accord, Afida, qu'il y a quand même, il y a quand même cette notion de confort qui disparaît. C'est-à-dire, un engagement, ça demande une certaine discipline. C'est pas toujours la fête, quoi.
Ah, mais complètement. C'est pas, et moi, je ne cesse de le répéter aux entrepreneurs avec lesquels je discute, aux clientes que j'accompagne, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout beau, tout rose. Donc, si l'intention, lorsqu'on se lance dans un projet d'entrepreneuriat, c'est de se dire, enfin, je vais être à mon compte, je vais travailler quand je veux, je vais travailler d'où je veux, l'argent va tomber, et puis on s'imagine que ça va être tout beau, tout rose, c'est pas du tout le cas. Surtout au démarrage, je dirais les 3 premières années, c'est là où on fait le plus de concessions, parce que on se découvre aussi en tant qu'entrepreneur. Oui. Donc forcément, si on veut avoir des résultats, on est obligé de passer par la case de faire des choses auxquelles on n'est pas habitué, avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise, parce que c'est une manière aussi de nous découvrir, découvrir quelles sont nos limites, de découvrir aussi quelles sont nos valeurs et quelles valeurs on n'a pas envie de bafouer en étant entrepreneur. Et tout ça, si on reste dans son coin, eh ben on peut pas le découvrir. Il faut forcément s'engager corps et âme dans ce qu'on fait pour dévoiler son potentiel, pour se dévoiler soi-même et s'autoriser, en fait, s'autoriser à voir mieux, à être mieux et à mieux contribuer.
Alors justement, Afida, aujourd'hui, tu as un discours qui est, je dirais, très pragmatique. Mm-hmm. Et je sais qu'il y a une Afida d'avant, parce que je te suis depuis quelques années. Et la Afida d'avant, c'était une entrepreneure qui n'était pas très sûre d'elle, qui acceptait toutes les missions qu'on lui proposait, mm-hmm. Et qui faisait souvent passer les intérêts des autres avant les siens. Et bon, par exemple, tu dis que tu peux le moindre temps libre que t'avais, tu le passais à travailler la nuit, le week-end, voilà. Et moi, ce qui me fascine chez toi, c'est ce changement de posture psychologique qui a fait que tu as radicalement changé. Alors bien sûr, pas du jour au lendemain. Hein. Mm-hmm. J'ai constaté ce changement progressif. Et ce que j'aimerais savoir, c'est que quand on veut devenir une entrepreneur engagée, c'est-à-dire quand on veut avoir un impact dans la vie des gens, mmh. quels sont pour toi les prérequis psychologiques pour pouvoir donner à l'autre sans priver sa propre personne?
Alors, tu fais bien de souligner cet aspect-là parce qu'effectivement, il y a la Afida d'avant qui manquait de confiance en elle, qui n'osait pas faire beaucoup de choses, et puis il y a la Afida de maintenant qui est complètement différente. Mais malheureusement, j'ai dû passer par une étape très très douloureuse pour réaliser ça. En fait, j'ai réalisé que ça, je ne pouvais plus continuer à faire les choses telles que je les faisais parce que mon corps m'a lâché. Parce D'accord. que je me suis retrouvée à l'hôpital pendant des semaines et que j'étais plus capable de prendre soin ni de moi, ni de ma famille, ni de mon business.
J'ai dit, c'est sûr que ça met une claque.
Voilà. J'ai tellement tiré sur la corde qu'elle a craqué.
D'accord.
Et depuis, en fait, donc ça, c'était l'hiver 2018. Et donc, à partir de 2019, je me suis promis de ne plus jamais attendre que mon corps tire la sonnette d'alarme pour remettre les choses en question ou pour réfléchir ou pour analyser. Donc, ce qui a fait en fait que j'ai pu adopter, je dirais, un état d'esprit différent, c'est que j'ai appris à lâcher prise. Et ça, je sais que c'est pas évident quand on démarre.
C'est sûr.
C'est de lâcher prise parce que dans le business, dans l'entrepreneuriat, il y a ce que l'on peut contrôler, il y a ce qu'on peut maîtriser. Et il y a ce qui est complètement extérieur à nous et qu'on ne peut pas maîtriser.
Oui.
Donc, si je devais citer des prérequis, c'est déjà de mettre au clair ce qu'on est prêt à accepter et ce que on ne veut les choses sur lesquelles on ne veut absolument pas faire l'impasse. Par exemple, si je me lance dans l'entrepreneuriat et que je suis maman, eh bien, si je ne prends pas le temps de définir clairement quel temps de qualité j'ai envie de passer avec mes enfants, eh bien, ça va être difficile derrière de m'organiser de sorte que je puisse leur accorder du temps de qualité.
Donc, c'est vraiment classer ses priorités, en fait, par ordre d'importance.
Exactement.
C'est-à-dire que si on veut être une maman, d'abord une maman, qui donne du temps de qualité à sa famille, on le met en premier de la liste, mm-hmm. et ensuite on regarde ce qui nous reste, en gros, et on compose avec ce qui nous reste pour essayer juste aussi de faire quelque chose de qualitatif dans d'autres aspects de notre vie, quoi, finalement.
Alors, effectivement. Alors, moi, je fonctionne pas comme ça dans mes priorités. Je sais ce qui est important pour moi. Je sais ce sur quoi j'ai envie de me focaliser au quotidien. Mais par contre, je ne fonctionne pas par priorité. C'est-à-dire que je vais pas mettre tout en haut, par exemple, ma famille. Et puis, ce qui reste, je vais l'accorder, par exemple, à mon rôle dans l'humanitaire ou à mon business ou à d'autres choses qui sont importantes pour moi. Par contre, je vais noter ce qui est vraiment important pour moi et à partir de là, je vais m'organiser pour être, je dirais, équitable dans le temps, dans l'énergie que j'ai envie d'accorder à chacune de ces choses en réalité. Donc je fonctionne plus par être équitable bien évidemment en tenant compte de moi parce que oui. Si moi je vais mal, forcément je vais pas bien m'occuper de mes enfants, je vais pas bien m'occuper de mon foyer, je vais pas bien m'occuper de mon business. Donc ça aussi, ce qui a aussi changé mon état d'esprit, c'est que j'ai enfin compris au bout de pas mal d'années de maltraitance entre guillemets de mon état d'esprit et de mon énergie, que en fait c'était moi les racines de mon entreprise, de ma famille, de pas mal de choses en fait, de beaucoup de choses dans mon univers, et que si en fait je ne prenais pas le temps d'arroser ces racines-là, eh ben le reste risquait de pourrir.
Ouais, exactement, tout à fait. Donc en fait, tout part de la personne.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est assez difficile ça, parce que quand on a l'habitude, quand on a pris l'habitude de tout petit d'être vers l'extérieur et non pas, et ça je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais d'être focalisé sur l'extérieur et sur les conditions extérieures au lieu d'être focalisé sur ce que nous on est capable de faire et ce qu'on est finalement on se connaît pas très bien finalement quand on en arrive au burn-out. C'est qu'on a oublié qui on était et on est arrivé à un état où on s'est pas respecté. Et la priorité, c'est d'abord de faire connaissance avec soi-même. Et je sais que tu as pris un certain temps pour faire connaissance avec toi-même. Est-ce que tu peux nous en parler de ça?
Alors, effectivement, j'ai mis beaucoup de temps à oser me questionner en profondeur. Peut-être parce que quelque part, j'avais peur des réponses. J'avais peur de réaliser que pendant longtemps, j'avais peut-être fait fausse route, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de fausse route. Et effectivement, ça a pris du temps. Ça a pris du temps et c'était justement 2018 et 2019, ça a été mes années d'introspection. Ça a été les années où j'ai commencé à apprendre à prendre du temps pour moi, parce que jusque-là, en fait, le temps que je prenais pour moi, c'était quand on partait en vacances en famille.
Oui.
Et le reste du temps, j'avais pas de temps pour moi. Et j'ai appris en fait à prendre soin de moi, à m'écouter davantage. Mais il m'a fallu plein de signaux extérieurs pour me dire il faut que ça change. C'est pas venu de moi-même en fait. C'est que je suis arrivée. Ça s'est imposé à moi et après j'ai commencé vraiment à réfléchir. Donc j'ai commencé à lire énormément, à réapprendre à lire parce que oui. J'ai toujours adoré lire. Depuis toute petite, j'ai toujours eu la tête dans les bouquins ou mes mercredis et mes samedis à la médiathèque. Mais j'ai coupé ce lien avec la lecture en entrant dans le monde du travail, dans le salariat.
Oui.
Et en 2018, j'ai réappris à aimer à lire. Donc ça a été la première chose, ça a été de m'accorder du temps pour lire. Donc c'est pas forcément des livres de dev perso ou de business, mais c'était d'apprendre à réaimer la lecture. Ça a été l'un des premiers pas. Et après, la première vraie sortie de zone de confort, c'était d'assister pour la première fois à un événement entre entrepreneurs.
D'accord.
Et là, ça a été une énorme sortie de zone de confort pour moi parce que j'étais mal à l'aise au milieu des gens. J'avais pas confiance en moi, je n'abordais pas les gens et si on venait pas vers moi, ben forcément je restais toute seule. J'étais vraiment dans une timidité maladive qui m'empêchait d'être moi et de faire ce que j'avais vraiment envie de faire au fond de moi.
On a du mal à imaginer aujourd'hui.
Ah si. Ouais, moi quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis mais c'est dingue. Ouais. Je me suis longtemps limitée parce que j'étais persuadée que l'étiquette de timide, elle était tellement collée que je pouvais pas la décoller.
Oui,
mais après, c'est petit à petit que je me suis rendu compte qu'en fait, non, cette étiquette-là, on me l'a collée en primaire quand j'étais introvertie et que j'avais peur de lever la main. Et après, on me l'a jamais enlevée. Tout le temps, t'es réservée, t'es introvertie, t'es timide, jusqu'à ce que moi, je m'en persuade. Et puis, puis en réalité, non. Les étiquettes qu'on nous colle, elles ont la vie dure. Elles nous mènent la vie dure.
Ça, c'est sûr. Mais il faut se réapproprier sa personne. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est adulte, c'est l'occasion de se réapproprier sa personne quand on ne nous a pas laissé l'occasion avant.
Ouais.
Et c'est l'occasion d'oser croire en quelque chose de différent. Et c'est vrai que ça, il faut avoir un peu de courage quand même, parce que il faut affronter. Donc, tu sais, parce que quand on est dans des schémas en fait de relations, donc des schémas relationnels, tu as une certaine position. Donc, par exemple, dans la famille, tu as une certaine position. Donc, tu as la position d'introverti, la position de timide, etc. Et quand tu veux sortir de cette position, ah là, tu déranges. Et là, ça va pas. Et là, faut affronter ce regard-là des approbateurs et dire bah non, je suis comme ça et puis c'est tout. Et c'est pas facile de sortir des schémas relationnels.
Effectivement, c'est pas facile, mais pour notre mieux-être, c'est nécessaire. Et tu vois, paradoxalement, j'ai eu longtemps cette étiquette donc de timide, d'introverti, mais en même temps, dans le cocon familial, donc moi, je suis issue d'une famille nombreuse, on est 11 enfants. Eh bien, moi, j'étais un peu, tu vois, celle du milieu. Donc, celle que, qu'on voit pas vraiment, tu vois, qui est un peu transparente parce que, ben, il y a les plus âgés qui, eux, ont le droit de prendre position, ont le droit de donner leur avis. Et puis, il y a les plus jeunes qu'on chouchoute parce que ce sont les plus jeunes. Et puis, ceux qui sont un peu dans la tranche du milieu, ben, eux, voilà, on les laisse faire leur vie. Et comme moi, je me suis toujours débrouillée toute seule, eh ben, on m'a toujours vue comme étant quelqu'un de débrouillard. De fort et de courageux. Tu vois, c'était paradoxal parce que d'un côté, on m'avait collé l'étiquette de timide, mais de l'autre côté, je me suis toujours débrouillée toute seule.
En même temps, les étiquettes, elles sont pas toujours fausses. Hein, tu vois, c'est-à-dire que il y a une part de notre identité qui est bonne, qui a été construite dans le cadre familial et qui n'est pas forcément mauvaise.
Bien
en
sûr.
Toi.
Oui, oui.
Quand on parle d'engagement, Afida. Et ou de bienveillance, tu vois, dans le business. Mm-hmm. Ça fait un peu bisounours, quoi. Tu vois, ça fait un peu, business engagé, bienveillance, etc. Enfin, voilà. Et pour moi, la vision manichéenne, bien, pas bien, bon, clairement, c'est dans les films. Hein. Et tu sais que pour être une personne équilibrée, faut avoir conscience du bon côté de l'être humain, mais je pense qu'il faut rester réaliste et être honnête avec soi-même. Et faut aussi quand même prendre conscience du côté sombre de l'être humain. Et quelles sont pour toi les réalités entrepreneuriales qui sont pas forcément storytellées, hein, qu'il faut prendre en compte quand on veut aborder la vie entrepreneuriale, de quoi on doit se protéger absolument?
Alors déjà, ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi, je le kiffe, mon monde des bisounours. Je suis très bien dedans et je continuerai à être dedans. C'est mon univers. J'aime croire en la bonté de l'être humain. Pour autant, je ne suis pas naïve.
Voilà.
Pour autant, je ne suis pas naïve. J'ai conscience que tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas gentil. Dans le monde de l'entrepreneuriat, de toute façon, dès le départ, tu as des expériences qui sont pas forcément positives avec d'autres entrepreneurs. Il y a ce côté un peu requin de certains qui fait que lorsque toi tu débarques avec ton tout nouveau projet, avec tes idées, tu as les yeux qui pétillent, tu as les papillons dans le ventre et puis tu arrives et tu vois une image de l'entrepreneuriat qui correspond pas à celle que tu es vraiment.
Oui.
Quand tu arrives là, tu as deux options. C'est soit restes campé sur ta vision, sur tes valeurs, sur ta position et que tu te ferais un chemin au milieu de tout ça en te protégeant.
Oui.
Soit tu te dis, si pour réussir, il faut absolument que je sois comme tout le monde et tu portes un masque. À toi de voir ce sur quoi tu veux te positionner quand tu...
Alors justement, quand tu choisis d'être toi-même... J'imagine que quand même, tu restes, même si tu es dans un monde de bisounours, et je suis persuadée qu'on attire les personnes qui sont comme nous. Mmh. C'est-à-dire que si on est un requin, on va attirer les requins, et si on est un bisounours, eh bien, on va attirer des bisounours aussi. Mmh. Mais même s'il y a une part fondamentalement bonne chez l'être humain, il y a quand même des choses dont il faut se protéger, mais pour le bien de tous. Tu vois, c'est comme des règles qu'on fixe dans une maison. Je veux dire, c'est tes enfants. Ils peuvent très bien dépasser les règles et ça reste tes enfants quand même. Donc, quelles sont, toi, les règles que toi, tu te fixes ou les limites à ne pas dépasser dans tes relations entrepreneuriales ou dans ton quotidien pour éviter de passer, en fait, du côté obscur, quoi.
Alors... Je dirais que déjà la première étape, c'est d'être au clair avec ces valeurs. Je vais me répéter, mais les valeurs, elles sont très importantes parce que c'est ce qui guide nos pensées, c'est ce qui guide nos paroles, c'est ce qui guide nos actions. Donc déjà d'être au clair avec ces valeurs et de se dire que ces valeurs-là, en fait, c'est elles qui vont nous faire prendre nos décisions.
D'accord.
Donc si moi je pars du principe que je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse.
Oui.
Donc déjà, en partant de ce postulat-là, je sais qu'il y a des comportements que je n'aurais pas avec les autres entrepreneurs. Pour autant, ça ne veut pas dire que j'ai pas eu des relations conflictuelles avec d'autres entrepreneurs, que je me suis pas sentie attaquée dans certaines relations. Mais je me dis que quel que soit le comportement de l'autre, ça lui appartient. Ça lui appartient et le pouvoir, entre guillemets, que j'ai moi au moment où ça se passe, c'est la réaction que je vais donner. et la force du pouvoir sur moi que je vais donner à la situation.
Par exemple, si tu rencontres des personnes toxiques, tu te coupes avec ces personnes-là ou tu composes avec ?
Alors, les personnes toxiques, alors, je vais parler de la partie business, mais dans la partie business, dès que je vois qu'il y a des personnes qui sont toxiques pour moi, eh bien, ce que je vais faire tout simplement, dans un premier temps, c'est que je vais essayer de discuter avec cette personne-là. Et si cette personne-là n'est pas du tout ouverte à la discussion et qu'elle est persuadée d'avoir raison, eh bien, petit à petit, je vais m'en éloigner. Parce que D'accord. Je considère que mon temps est trop précieux, que mon énergie, elle est trop précieuse et j'ai pas envie de les mettre dans des choses qui vont me faire sentir mal ou diminuer mon estime ou ma confiance en moi ou autre. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai ce discours-là, mais il y a encore quelques années en arrière, je subissais tout ça.
Oui, tout à fait.
Ça. Donc, ce qui fait la différence entre il y a quelques années en arrière et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je me respecte.
Voilà, c'est ça.
C'est simplement ça.
Il y a quand même une force intérieure quand même qui sent quand ça va pas et qui est capable de repérer les dangers, quoi.
Exactement, ouais. Exactement. Et juste pour compléter ce que je disais par rapport au fait justement de se prémunir de ce genre de relation, de malveillance ou autre, c'est de toujours rester fidèle à soi-même. C'est pas parce que l'autre est mauvais avec nous qu'on doit devenir mauvais aussi. C'est pas parce que l'autre nous attaque qu'on doit être forcément sur la défensive. C'est pas parce qu'on parle de nous en mal qu'on doit en faire autant, tu vois. C'est toujours rester fidèle à soi-même. Si ton intention c'est d'être dans la bonté avec les gens, eh ben continue à le faire parce que sur 100 personnes, la majorité sera aussi bon. Moi en tout cas, je pars du principe là.
Moi je partage exactement la même vision que toi et je la vis au quotidien et effectivement c'est tout à fait compatible. J'aimerais te poser une question. Alors tu vois, quand on est justement encore dans l'engagement, il y a ce rapport à l'argent qui est un peu compliqué. Mmh. Comment tu considères en fait le fait de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un et qu'en échange tu lui demandes de l'argent? Parce que pourquoi je pose cette question? Parce que pour beaucoup d'entrepreneurs c'est pas clair, ou de prétendantes à l'entrepreneuriat, c'est pas très clair cette question de se faire payer à la hauteur de ses compétences. Et donc, voilà, aujourd'hui, je sais que tu es bien dans tes baskets et je voulais savoir quel est ton rapport à l'argent aujourd'hui.
Alors, je voudrais juste poser le décor entre guillemets par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que dans l'esprit des gens, le don de soi, le fait d'aider est toujours lié au gratuit. On aide de bon cœur, on aide parce qu'on a envie d'aider et c'est souvent gratuit de vouloir aider les autres. Donc comme on a déjà cet ancrage-là qui est fait, c'est difficile de venir et de dire à la personne « je vais t'aider, mais paye-moi ». Aujourd'hui, moi, le rapport que j'ai avec mes offres, avec les tarifs de mes offres, c'est qu'à un moment donné, en fait, quand j'ai fait justement le point sur où je voulais aller, qui je voulais être, qu'est-ce que j'avais envie de donner et de recevoir, eh bien, l'une de mes ambitions sur le moyen-long terme, c'est de créer un écosystème où je vais... Enfin, ouvrir un centre. Enfin, c'est pas encore tout à fait clair dans ma tête, mais en tout cas, je vais aider les jeunes femmes dès leur plus jeune âge à prendre soin d'elles, à se considérer, à se valoriser et à créer la vie dont elles ont vraiment envie. J'envisage de le faire quelque part en Afrique, je sais pas encore où. Mais un projet comme celui-ci, il a forcément besoin d'argent.
Oui.
Donc, à partir de ce moment-là où je me suis dit, si mon ambition c'est d'aider mieux, d'aider plus, il faut forcément que je reçoive plus.
Exactement.
Donc, ça a été le déclic, en fait, dans ma tête et dans mon cœur. Au moment où je me suis dit, en fait, si j'ai envie de donner plus, de donner mieux, il faut que moi, je reçoive plus et que je reçoive mieux. Donc, aujourd'hui, je pense pas avoir de blocage par rapport à l'argent. Au moment où je parle.
Ça t'a décomplexé par rapport à ça, en fait.
Exactement. Ça m'a décomplexé. C'est obligé, effectivement. Et puis, il y a aussi une notion de confiance en soi. Parce que quand on a du mal, justement, avec l'argent, c'est peut-être que quelque part, on n'a pas assez confiance en soi, on n'a pas assez confiance en ses compétences, en ses capacités, en cette contribution personnelle qu'on peut apporter à soi et au monde. Et si on travaille pas aussi sur ça, eh bien, notre état d'esprit ne peut pas changer en réalité. Donc, il y a plein de notions, en fait, qui viennent se relier à notre relation à l'argent. Ça peut être comment on a grandi avec la notion d'argent. Par exemple, moi, on est une famille nombreuse, donc forcément, la gestion du quotidien, c'était pas évident pour mes parents. Donc, ils ont beaucoup été économes. Pour autant, on n'a jamais manqué de rien. Donc, il y avait quand même ce petit poids-là qui est resté longtemps où je me disais, il faut faire attention à l'argent. Donc, j'étais…
Alors, ça n'empêche pas, c'est juste qu'on ne s'autorise pas à gagner plus. Faire attention à l'argent, ce n'est pas un problème en soi. Oui. C'est comme faire attention à l'eau, hein, en fait, finalement. Voilà, parce que les ressources sont limitées. C'est plus dans la capacité à créer des ressources, tu vois. C'est-à-dire à se dire, mais je vais pouvoir générer du chiffre. C'est plus dans cette optique-là que généralement les gens se restreignent. Ils se disent mais non, je ne vais pas dépenser beaucoup parce que je ne vais pas en gagner beaucoup. Et en fait, je cherche même pas à en gagner beaucoup plus finalement parce que je ne vaux pas plus. C'est plutôt ça.
Effectivement, c'est complètement ça. C'est de s'autoriser à s'estimer à sa juste valeur en fait.
Oui, tout à fait. Alors, Afida. Comme toutes mes invitées, je demande les trois conseils, selon toi, pour avoir un mental d'entrepreneur au taquet.
Alors, il y en a pas mal, mais j'en ai trois qui me viennent en tête. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes les racines de notre écosystème. Donc la première chose à faire pour moi, c'est de s'accorder du temps pour trouver justement un équilibre dans toutes les sphères de notre vie. Donc de prendre le temps de lister ce qui est important pour nous, de lister les ressources qu'on a justement pour être épanouis dans chacun de nos rôles et de mettre en place des choses pour que qu'on soit équitable avec soi et avec les autres et qu'on puisse être épanoui. Donc pour moi, il y a cette notion de prendre soin de soi qui est importante et qu'on néglige beaucoup quand on a différentes casquettes et qu'on a tendance justement à plus penser aux autres qu'à soi. Donc les autres, c'est les enfants, c'est le mari, c'est les parents, les frères et sœurs, c'est les clients, c'est les prospects, c'est tellement de choses au final on vient se caser soi là où il y a de la place. Donc c'est dès le départ de caser en premier la place pour soi parce que si nous on ne va pas bien, eh bien le reste est bancal pour moi. Et pour l'avoir vécu, je sais que c'est exactement ça, que si on ne s'accorde pas du temps, eh bien le reste devient lourd au bout d'un certain temps.
Oui.
Ensuite, la deuxième chose, et d'ailleurs c'est souvent pour ça qu'on fait appel à moi, c'est par rapport au fait de s'organiser, de structurer.
Oui.
En réalité, si on veut avoir un business qui va tenir dans la durée, on est obligé, à mon sens, de passer par la case organisation, planification, structure. Si on néglige cette étape-là et qu'on se dit je vais faire selon mon flow, parce que c'est ça, c'est le truc.
C'est un truc féminin, ça.
Ouais. Je suis mon flow, je poste selon mon flow, je l'ai revu. Ça ne veut pas dire que je ne m'écoute pas. Attention, ça ne veut pas dire que je ne suis pas mon intuition, que je ne suis pas mon flow, mon humeur, mon mood, on l'appelle comme on veut. Mais c'est plus que si justement j'ai pris le temps déjà de lister ce qui était important pour moi. Ben, une fois que j'ai listé ce qui est important pour moi, que j'ai listé le temps que je devais accorder à chacun, à chacune, à chaque chose, eh bien maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien maintenant, je m'organise de sorte que je puisse avoir du temps de qualité pour chacune de ces choses.
Oui, on cadre en fait sans être dans l'exagération, du planning à respecter à la lettre.
Oui.
C'est du bon sens finalement, c'est de la discipline en fait.
Exactement, c'est de la discipline. C'est le mot que je répète souvent à mes clientes quand elles ont un peu peur justement d'entrer dans cette phase de s'organiser. Parce que quand on n'est pas habitué justement à planifier, à regarder plus loin que demain, à planifier, eh bien c'est un peu difficile d'entrer d'entrer dans cette façon de réfléchir. Mais s'organiser, c'est aussi justement s'autoriser de caser dans son planning du temps pour soi, du temps avec ses amis, du temps pour kiffer.
Donc, c'est oui, l'improvisation aussi. Voilà. Oui, il y a de la place à l'improvisation. Exactement. Tant qu'on a un cadre, on peut être flexible, je pense.
Exactement ça. On peut être flexible. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir un équilibre entre ma vie pro et perso. Il y a encore 1 an et demi, 2 ans en arrière, je travaille quasiment 7 jours sur 7. Aujourd'hui, le mercredi, je le passe la plupart du temps avec mes enfants, et quand j'ai du travail, je vais travailler 2 heures le matin. Et le week-end, je le consacre à mes enfants ou à ma famille. Mais c'est pas non plus une obligation. Si un dimanche j'ai envie de travailler, ça a été le cas dimanche dernier, eh bien, je vais le travailler, mais je vais pas le vivre comme une contrainte. Je vais travailler parce que j'ai envie, c'est tout.
Oui, t'as envie, ou parce que il faut, parce que il y a un projet derrière qui est plus grand et que parfois il faut, en fait, et puis c'est tout.
Voilà, exactement. On est d'accord. On est d'accord.
Chercher le confort tout le temps, c'est.
Et la troisième chose qui me vient en tête, c'est de renouveler son intention. Oui. De renouveler son intention pour soi et pour les autres dans ce qu'on fait de manière générale, que ce soit dans notre quotidien ou dans notre entreprise, c'est à chaque fois de se rappeler pourquoi, pour qui on fait les choses, quelle est notre intention derrière tout ça, quel sens on vient donner à ce que l'on fait, parce que parfois, quand on a la tête dans le guidon, quand on est hyper occupé par ce qu'on est en train de faire dans notre business ou autre chose, hein, eh bien, petit à petit, on s'éloigne de notre cœur. On fait plus travailler notre cerveau que notre cœur. Et à long terme, ça peut être difficile et ça peut, devenir lourd, parce que il y a plus cette flamme à l'intérieur, en fait, tout simplement. C'est qu'on est tellement dans l'action, dans le vif, que on prend plus le temps de se poser, on ne prend plus le temps d'analyser et de se dire voilà ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, est-ce que c'est toujours en accord avec celle que j'ai envie d'être, avec celle que je suis, et de renouveler son intention. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'aide dans mon quotidien, parce que ça me permet d'apporter un souffle peut-être plus spirituel, plus fort que d'être 100% business uniquement.
Mais on peut pas être 100% business uniquement. On est des êtres humains, on a des valeurs, on a une histoire. Forcément, à un moment, effectivement, sauf si on s'est mis soi-même en mode machine automatique, le fait de méditer, de réfléchir, et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est pour vraiment créer un moment d'introspection hebdomadaire un peu, pour qu'à chaque fois on se dise, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça où je veux aller? Est-ce que c'est vraiment, enfin voilà. Et c'est un travail qui prend du temps, et il faut le prendre, je dirais chaque semaine, faut le prendre même tous les jours un peu.
Exactement.
Pour pouvoir, ne pas avoir cette impression que la vie, elle nous échappe, quoi.
Exactement. C'est une manière de ne pas subir, en fait, de ne pas subir son quotidien, de prendre les rênes de sa vie et de se dire, voilà ce que je mérite et voilà ce que je suis prête à faire pour avoir cette vie que j'ai envie de vivre, tout simplement, de ressentir ce que j'ai envie de ressentir, de donner ce que je veux, de recevoir ce que je veux.
En tout cas, ton témoignage est particulièrement inspirant. Là, on va finir, et puis je vais aller à mes réflexions, à mes méditations. Alors, Afida, où est-ce qu'on peut te trouver si on veut entrer en contact avec toi?
Alors, l'endroit où je m'éclate le plus et où je suis le plus présente, c'est Instagram, au nom de Afida Aglave. C'est là où vraiment on peut découvrir la Afida sans filtre, en story, dans les posts.
Ouais. Au quotidien, avec sa petite famille et tout. Super sympa. De toute façon, je mettrai toutes les infos, comme d'habitude, sur le descriptif de cet épisode. D'accord. Et sur mon site. Afida, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Je te souhaite beaucoup de réussite pour tous tes projets à venir. À très bientôt.
Merci de m'avoir accueillie, Hayat. À très bientôt.
Merci. Au revoir, Afida, et prends soin de ton mental.
Merci.
Ce qui me tient à cœur dans Vocation Entrepreneur, c'est de vous présenter des profils de femmes entrepreneurs aussi variés que possible. Si l'engagement vous tient à cœur, le cas de Afida devrait vous rassurer. Elle a trouvé son équilibre, mais attention, elle n'est pas naïve pour autant et continue à soutenir les causes qui lui tiennent à cœur tout en veillant à faire prospérer son entreprise. Pour avoir plus d'impact dans son monde, elle a besoin de gagner plus d'argent. Et je trouve cet angle de vue particulièrement intéressant parce que quand vous savez pourquoi vous faites les choses, les arguments pour vendre viennent à votre bouche un peu tout seul. Vous pouvez donc tout à fait concilier engagement et business. Pour ma part, je pense que je n'ai pas encore atteint ce niveau dans mon cheminement parce que je ne suis qu'au début de mon aventure, mais cet échange va rester dans un coin de ma tête, dans ma boîte à outils psycho pour le jour où j'en aurai besoin. Pourquoi il est important de passer à l'action pour connaître vos limites et votre potentiel ? Parce que le passage à l'action vous donne confiance en vos capacités de réaliser des choses. Lorsque vous faites des choses, ce sont des preuves tangibles pour votre cerveau et vous activez le circuit de la récompense. Le schéma, c'est le suivant. Vous avez envie de réaliser un projet, mais vous avez peur. C'est normal, je ne connais pas une personne qui n'a pas peur. Vous passez à l'action, vous réussissez des choses, vous avez donc moins peur et vous allez repasser plus rapidement à l'action. Et là, vous avez mentalement intégré le fait que derrière un passage à l'action, il y a une récompense. Alors bien sûr, pas toujours, comme un espèce de drogué, vous allez oublier l'échec et vous allez continuer à chercher cette réussite, donc l'adrénaline en fait qui est derrière, parce que vous l'avez déjà vécu. Le passage à l'action formalise ce qui, à l'origine, est purement mental. Ça lui donne du corps et des preuves intangibles. Mon conseil du jour, c'est de ne pas confondre qui vous êtes au jour où vous commencez avec la personne que vous allez devenir. Pour cela, il va falloir accepter de lâcher prise. Lâcher prise sur qui vous êtes. Accepter de partir d'un point A pour aller vers un point infini. Et oui, l'alphabet dans le business n'a pas de limite. Une fois que vous aurez lâché prise, vous accepterez de tenter des expériences. Mais pour être plus proche de la réalité, vous devez aussi avoir un point de douleur. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un état de mal-être de votre situation actuelle. Vous n'êtes pas complètement épanoui dans votre situation actuelle parce que pour percer dans le business, il faut vouloir sortir d'une situation qui ne vous épanouit pas. Ça peut être par exemple votre statut de salarié, le métier que vous exercez, un manque d'argent, une dépendance financière, le sentiment de n'avoir rien accompli de sa vie pour soi-même, le besoin de survivre parfois. C'est cette tension entre l'espoir de réussir et la volonté de quitter votre état actuel qui constitue le combo parfait pour vous faire avancer. Sans douleur, il n'y a pas d'intérêt à vouloir changer et sans espoir, il n'y a pas d'intérêt à chercher le bonheur. Voilà pour mon analyse du jour, j'espère que ce sujet vous aura aidé à avancer. On se retrouve au prochain épisode de Vocation Entrepreneur pour aborder des sujets encore plus passionnants. Si vous aimez mon contenu, allez vite me donner votre avis par mail ou un commentaire et une note sympa sur Apple Podcasts. Vous participerez à la visibilité du podcast et vous me rendrez un grand service. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et auprès de votre entourage. Et n'oubliez pas, prenez soin de votre mental.